Bonjour à tous et à toutes. Je vais emprunter ces quelques mots avant de commencer, que Brady disait il y a une dizaine de jours. Si jamais vous vous sentez visé par les mots que je vais dire ce matin, eh ben c'est pas de vous que je parle. Si vous avez une part à prendre, alors prenez-la, n'hésitez pas. Si vous ne vous sentez pas forcément visé, eh bien, soit, c'est que tout va bien pour vous, mais ce n'est pas souvent le cas. En tout cas, bref, à chacun selon votre cœur. Il y a des moments dans nos vies qui ont plus d'importance que tous les autres. Ce sont des instants bénis, des événements qui nous bouleversent. Cela peut être le jour de son mariage. Le jour où l'on a rencontré Dieu pour la première fois, peut-être un espace café. Le jour de son baptême, le jour de la naissance de ses enfants, ça peut être un de ces jours-là. Et de tous ces jours-là, le jour du baptême a une portée particulière dans ses conséquences dans cette vie, mais également pour celle d'après. Et lorsque nous assistons à un baptême, en tout cas c'est mon cas, une joie s'empare de nous, de moi. Nous tressaillons littéralement lorsque cette personne, qui ne connaissait pas Dieu et son œuvre pour nous, décide d'abandonner son ancienne nature pour en devenir une nouvelle et s'abandonner à Dieu. On a coutume de dire que les anges chantent lorsqu'une nouvelle âme se donne à Dieu. Et j'ai cherché dans la parole, j'ai pas forcément trouvé ça, mais je trouve en Luc, chapitre 15, au verset 10, Jésus qui dit: De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Nous le voyons dans ce passage, les anges sont habités par cette même joie lorsque nous voyons une personne se repentir et revenir à Dieu. Vous avez peut-être eu cette expérience d'être enivré de joie lorsque vous assistez au baptême de quelqu'un qui se livre au Seigneur. C'est personnellement ce qui m'est arrivé lorsque mon petit frère s'est donné au Seigneur. C'est quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps. Et lorsqu'il a décidé de le faire, le moment du baptême, je n'ai pas eu d'autre choix que de craquer littéralement. C'est un moment qui était précieux et béni. Celui que vous aimez tant, ou celle que vous aimez tant, lorsque vous l'étreignez, vous prenez une douche de grâce en sa compagnie. Cette joie spéciale liée directement au baptême de celui ou celle qui a une valeur particulière à nos yeux, Dieu la ressent pour nous tous, pour chacun d'entre nous, à chaque fois. Dieu nous aime tous et tous particulièrement, indépendamment les uns des autres. Ce qui est à souligner dans ce verset, au-delà du fait qu'effectivement les anges de Dieu entrent dans une joie pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, pour un seul uniquement. Nous avons tous, je l'ai dit il y a quelques semaines, une valeur aux yeux de Dieu. L'apôtre demandait à Dieu: Qui sommes-nous donc pour que tu nous aimes ainsi? Nous ne nous sommes pas grand-chose. Nous ne sommes même pas dignes de l'amour de notre Dieu. Et pourtant, Dieu remplit nos vies de son amour. Mais les preuves, nous les avons dans les paraboles du fils perdu et de la brebis perdue. Jésus enseigne cela en Luc, chapitre 15, au verset 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et pareil, en Matthieu chapitre 18, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Dieu ne désire pas que même un seul d'entre nous ne s'éloigne de lui. Il y a quelque temps, je me suis amusé à faire une expérience sur mon cobaye préféré, Céline. Elle a des milliers de cheveux sur sa tête. Mais si je n'en tire ne serait-ce qu'un seul, elle le ressent et celui-là lui fait mal. De la même manière que lorsqu'un pécheur se repent, cela donne la joie aux anges de Dieu dans le ciel. La tristesse et l'affliction gagnent les anges lorsqu'une âme qui avait décidé de s'attacher à Dieu décide de s'en défaire. Ou une autre manière de le dire, lorsqu'un chrétien quitte l'Église. Il y a ces passages que je trouve percutants. Le premier, c'est en Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Et ce sont des passages qui sont percutants, même qui effraient. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Dans la même veine, en 2 Pierre, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, « Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Ces deux passages que je trouve effrayants, car il s'agit de passages qui décrivent celui qui a eu accès à la grâce de Dieu, mieux, qui a goûté et qui a tourné le dos de plein gré, sans se repentir, eh bien celui-là, il est impossible d'être sauvé. Parce qu'aucune promesse supplémentaire ne peut lui être faite. L'argument suprême du don de Dieu, son Fils, pour le pardon de ses péchés, il n'y en a pas de plus important. Quoi de plus peut le ramener à la raison et à la maison ? La parole semble être fataliste à son sujet. Il y a quelque temps, nous avons une étude avec Pierre Guillot qui répondait à la question « Peut-on perdre son salut ?» Et la réponse, c'est oui. On peut perdre son salut lorsque l'on décide de quitter la vie que Dieu nous propose et que l'on décide de rester dans l'état de rébellion contre Dieu. Il y a un passage à ce sujet en Hébreux chapitre 10. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand je lis ces versets, j'ai l'estomac vraiment noué en pensant à ceux que j'aime et avec qui j'ai grandi, des amis, des frères, des sœurs qui ont décidé un jour, qui n'ont pas décidé en un jour, mais petit à petit, de laisser Dieu. J'ai tenté une expérience un peu glauque, c'est que hier, je me suis assis et je me suis rapidement arrêté, j'ai fait une liste de gens que je ne connaissais plus, que je ne voyais plus. Je me suis arrêté à une quinzaine et la liste n'était pas finie. De gens que je connais, qui se sont donnés au Seigneur et qui l'ont quitté. Et vraiment, il n'y a rien de plus triste. C'est une question pour moi ces derniers temps, et on a encore eu la preuve ces derniers temps de personnes qui ont quitté l'Église. Que faire pour elles? Il y a forcément quelques initiatives, mais pour l'instant, c'est sans grand succès. Mais je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du jour au lendemain que la plupart de ceux qui ont décidé de vivre autrement sont partis. Et c'est un processus qui est bien connu. Alors ça commence par cette mauvaise pente. Ben, je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour continuer de prier et lire ma Bible. Ça, on l'entend. Ce sont des choses qu'on entend. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches pour être avec mon Seigneur. Et un qui frappe aussi beaucoup de jeunes, ça va, il n'est pas contre l'idée. Je précise, je sors avec un non-chrétien ou une non-chrétienne, mais pour le moment, ça va. Il n'est pas contre l'idée d'aller un jour à l'église avec moi. Waouh ! Un jour peut-être, mais ce jour ne vient pas. Ce jour ne vient pas. Et en tout cas, il n'est pas venu pour tous ceux que j'ai connus. Et vous connaissez peut-être d'autres scénarios, tous plus intéressants les uns que les autres, mais qui mène, hélas, très souvent, ou à chaque fois, en ce qui concerne ma jeune expérience, à un détachement de Dieu. Et ces choix ne sont bien souvent pas les signes avant-coureurs, mais bien des conséquences de leur éloignement de Dieu. Mais alors, avant d'en arriver à un point où notre frère ou notre sœur ne décroche plus son téléphone pour répondre à notre appel de retour à la lumière, à un point où cette douleur de perdre un membre de la communauté, alors que peut-on faire? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais en poser une autre. Sincèrement, au plus profond de notre cœur, sommes-nous réellement attristés lorsque l'un d'entre nous quitte l'assemblée? Et tressaillons-nous de joie, de la même joie que les anges, lorsqu'un pécheur se repent et décide de se donner à Dieu? Partageons-nous la tristesse et l'affliction des mêmes lorsqu'un membre de l'Assemblée la quitte? Certains répondront oui, d'autres répondront non, et d'autres répondront oui, mais ça dépend pour qui. Et c'est là que l'Église, l'Assemblée des saints, prend toute son importance. Dieu a établi l'Église pour qu'elle rayonne, qu'elle annonce à tous la bonne nouvelle de son avènement, qu'il va revenir, et qu'il faut dès aujourd'hui répondre à son appel, à son invitation, et nous entretenir dans la foi. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Le Nouveau Testament donne de nombreux commandements aux croyants quant à la façon de se traiter les uns les autres. Ces commandements constituent une liste d'obligations mutuelles. Il souligne les responsabilités de tout membre de l'Église dans ses relations aux autres. Comprendre à quel point nous avons besoin les uns des autres et comment nous devons nous traiter les uns les autres contribue largement à notre cohésion. Alors tout d'abord, Jésus nous a ordonné de nous aimer les uns les autres. Et c'est le commandement le plus fréquent qu'il nous a laissé. Et sans doute, celui de nous aimer les uns les autres. Et il précisera d'ailleurs, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Trois fois, il dit la même chose en une même phrase. Le commandement de Jésus est une affirmation tellement fondamentale du devoir du chrétien qu'il est répété plus de 10 fois dans le Nouveau Testament. Et s'aimer les uns les autres est donc obligatoire et fondamental dans notre vie d'Église. Paul souligne le commandement de Jésus et il revient dessus quand il dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et il ajoute, et on a eu ce bel exemple de Marc ce matin, « Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Il y a également ce passage « Recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Recherchez toujours le bien. Nous devons également nous honorer les uns les autres. Partout dans la Bible, il est attendu de chacun qu'il honore Dieu et son prochain. Paul dira « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Il indique aussi qu'en s'honorant ainsi mutuellement, nous minimisons les risques de division dans le corps. Vivons en paix les uns avec les autres, dans l'humilité. Nous voyons un autre aspect de ce commandement dans les propos de Jésus. Soyez en paix les uns avec les autres. Et Paul le redit de plusieurs façons. Soyez en paix entre vous, en 1 Thessaloniciens. Il le dit aussi en Romains 12, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. D'autres passages, ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Et Pierre dira aussi, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Nous devons nous supporter les uns les autres. Alors, se supporter les uns les autres, ce n'est pas se regarder en se bouchant le nez. Mais c'est prendre soin de ceux que on n'est pas forcément amené à aimer dans un premier temps. Ceux que nous trouvons difficiles. L'Écriture nous dit que nous devons nous soutenir, nous supporter. Cela ne signifie pas que nous leur permettons de nous contrôler, ni qu'ils ne doivent être tenus responsables de leurs propres actes et de leurs propos. Nous qui sommes forts devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. En vue de l'édification. Autre chose, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Nous nous acceptons les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, ce n'est pas le même passage que j'avais. Justement, j'ai fait mon compte. Bref, on va continuer. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, écrit Paul en Romains 14. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueilli. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Nous nous rendons également serviteurs les uns des autres. S'accepter mutuellement nécessite d'entretenir de vrais rapports, vrais et serviables, les uns envers les autres. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. Et encore une fois, on a cet exemple de Marc qui se rend serviteur de Nelly. Et c'est une bonne chose à entendre. Et Jésus donne la même leçon à ses disciples quand il leur dit de se laver les pieds les uns aux autres. Et Paul poursuit sur cette pensée quand il exhorte les croyants à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et à porter les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Voilà un peu les engagements que nous avons les uns envers les autres. Et les deux parties que je voudrais un peu plus développer également. Nous devons veiller les uns les autres, nous encourager les uns les autres. Une des raisons d'être des rassemblements de chrétiens, et ce matin, c'est de veiller les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et de s'exhorter mutuellement également. En Hébreux chapitre 3, nous lisons « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On voit le but, hein, deux buts à détacher, c'est l'édification commune, dans un premier temps, mais également de s'éviter de s'endurcir dans le péché. Nous appartenons les uns aux autres. En Christ, nous nous appartenons les uns aux autres et constituons un seul corps. Nous sommes tous les membres d'un seul corps. C'est pourquoi rejeter ou renoncer au mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. En 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous sommes en communion les uns avec les autres. Paul prie ainsi pour les chrétiens de Rome, « Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. » Pour éviter les divisions au sein du corps, Paul enseigne aux églises que les membres aient également soin les uns des autres. Quand nous nous occupons de nous encourager, de nous édifier les uns les autres, nous favorisons l'unité du corps en nous donnant des forces mutuellement pour lutter contre les attaques de l'ennemi qui cherche à nous arracher à notre Dieu. Nous nous édifions lorsque nous chantons ensemble, lorsque nous lisons la parole ensemble, mais également, et ça demande plus de courage, de nous reprendre les uns les autres avec douceur. En Galates chapitre 6, Paul nous enseigne, « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec douceur. » Prends donc garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Nous avons bien souvent peur d'aller trouver notre frère ou notre sœur en nous mettant l'écran de fumée que nous ne devons pas nous juger les uns les autres. Simplement, c'est simplement les objectifs de notre cœur qui peuvent indiquer si nous sommes en train de nous juger ou pas. Mais nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres et aller nous trouver les uns les autres et nous reprendre avec douceur. Et nous sommes encouragés à parler avec vérité à notre prochain et nous ne sommes pas appelés à éviter une discussion qui nous obligerait à nous impliquer dans la vie des uns des autres. Et lorsque j'ai dit tout ça, et j'ai partagé quand même pas mal de versets, je voudrais vous Je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite fable, pour illustrer un petit peu cette idée. C'est la fable du mouton et du cheval. Un fermier avait un cheval qui l'aidait dans les champs. Et un jour, le cheval tomba malade. Le fermier appela le vétérinaire et le vétérinaire lui donna des médicaments et lui dit, écoutez, si au bout de 3 jours, votre cheval n'est pas guéri, il faudra le tuer puisqu'il risque d'infecter le reste des animaux. Et le mouton qui était à côté du fermier entendit ce qu'avait dit le vétérinaire et donc alla rapporter au cheval le premier jour. « Cheval, il faut que tu te remettes. Il faut que tu te remettes. » Et le cheval, le premier jour, dit « Écoute, je me sens vraiment trop faible, je ne peux pas me relever. » Le deuxième jour, le mouton retourna voir le cheval. « Écoute, il faut vraiment que tu te remettes. Remets-toi vite. » Et le cheval, qui était malade, dit « Écoute, j'ai vraiment aucune force, je ne peux pas me relever. » Le troisième jour, le jour où qui devait être la fin pour le cheval, le mouton alla trouver le cheval en lui disant « Écoute, il faut absolument que tu te remettes parce que j'ai entendu que si jamais tu ne te remets pas sur pied, eh ben le fermier va te tuer. » Et lorsque le cheval entendit ça, lorsque le fermier alla le trouver, il se mit sur pied et même tremblant, mais il se mit debout. Et le fermier dit « Ah, je vois que mon cheval s'est bien remis. » Eh bien, pour fêter ça, on va tuer le mouton et on va faire un méchoui. Alors, c'est une histoire qui nous fait sourire. Mais est-ce que réellement, on ne pense pas que c'est ce qui va nous arriver? On a peur d'aller trouver notre frère et notre sœur pour aller le reprendre, en pensant que ça va nous retomber dessus. Mais nous ne sommes pas appelés à nous craindre les uns les autres. Mais il faut avoir du courage. Lorsque je lis ces passages, je comprends que dans ma relation avec mes frères et avec mes sœurs en Christ, je dois m'engager dans leur vie, quelles que soient les conséquences, si je le fais avec amour. Attention, je ne parle pas de questionner qui que ce soit sur sa vie intime, avec son mari ou sa femme. On n'est pas appelé à être des procureurs. Mais nous devons user de prévenance et ne pas craindre de trouver un frère ou une sœur et se rendre serviteur par une parole encourageante, par une prière. Le service tient autant dans ce que je peux faire sur la chair, le ménage, les classes, que prendre mon téléphone et appeler quelqu'un, ne serait-ce que 5 minutes, même un texto, pour prendre des nouvelles. D'un frère ou d'une sœur qui n'est pas venu tel dimanche ou qui a besoin d'aide. Ce que vit celui qui est assis à côté de toi, ses joies, ses peines sont aussi les tiennes. Nous appartenons les uns les autres. Nous sommes membres les uns des autres. Vous rendez-vous compte de la portée que cela peut avoir dans notre vie d'église ? Comment considérons-nous notre assemblée ? Comme un endroit où nous mettons en commun un petit peu de temps ? Où nous mettons en commun nos voix pour chanter ? Et ne serait-ce que cela ? L'Église que nous composons met en commun la vie entière de tous ses membres. Et ainsi, lorsque l'un d'entre nous s'éloigne, c'est une vraie peine qui nous anime et nous sommes instantanément là pour nous secourir mutuellement. En Hébreux chapitre 10, on l'a lu tout à l'heure, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est vrai que la grâce que Dieu nous accorde nous garde du jugement qu'il réserve aux hommes et aux femmes qui ne le suivent pas. Et je ne souhaite à aucun d'entre nous de tomber sous le jugement de Dieu. Mais pour faire de ce souhait une réalité, nous, en tant qu'assemblée, exhortons-nous. Veillons les uns sur les autres. Parlons-nous avec vérité et mettons-nous au service les uns des autres. Honorons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Acceptons-nous les uns les autres. Vivons en paix les uns avec les autres. Et ainsi, nous accomplirons la loi de Christ. Alors quand j'entends quelqu'un dire qu'il n'a pas besoin de venir à l'église tous les dimanches pour vivre sa foi, et quand je lis dans la parole la multitude de versets qui nous enseignent ce que l'église doit être pour ses membres, et l'infini bénéfice que nous pouvons recevoir les uns des autres, je me dis que soit l'église n'a pas fait son travail, soit cette personne n'a rien compris, ou soit en dernier lieu, elle se ment à elle-même, et elle le sait. Pour finir, en Ézéchiel chapitre 34, le prophète annonce la venue du pasteur qui paîtra son troupeau. Au verset 4, nous lisons « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Le contexte d'Ézéchiel n'est pas à proprement parler celui de l'Église, mais j'y vois quand même un lien. Celui qui est annoncé dans ce passage, Jésus a lui-même établi l'Église. Et nous sommes à présent son troupeau. Nous ne sommes pas tous pasteurs. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais nous devons tous veiller les uns sur les autres. Et nous devons veiller à ceux qui d'entre nous s'éloignent. Nous ne sommes pas appelés à être des procureurs, mais nous sommes appelés à être vigilants les uns vis-à-vis des autres. Et l'objectif, c'est l'édification commune, l'édification du corps. Et la liberté individuelle, me direz-vous, elle reste la même qu'avant d'accepter Christ. C'est la même liberté que nous avons de le suivre ou de ne pas le suivre. Mais l'Église est la source, un oasis dans un désert. Et même si l'Église est une source et un oasis dans un désert, elle ne remplacera jamais un engagement personnel et total à Christ. Alors retenons simplement que nous sommes en Christ, membres les uns des autres.